Donc, Laurent, tu as commencé à te présenter un peu toi-même.
Oui.
On a des données techniques maintenant précises.
Très bien.
Laurent Weil est donc écrivain de science-fiction et depuis peu de thriller. Tu nous as donné, entre autres, Les Pilleurs d'âmes, qui vient de ressortir en poche chez Les Moutons Électriques, dans la collection Helios. Et puis, ce qui nous intéressera plus particulièrement, Les Étoiles sans balance et Les damnés de l'asphalte chez Critique. On est sur un contexte post-apocalyptique pleinement. Et puis donc récemment, ton thriller Goodbye Billy. Quant à Raphaël, tu publies chez Les Moutons Électriques aussi, avec des essais qui sont des petites sommes de connaissances assez impressionnantes. Je citerai brièvement Zombie, science-fiction qui va nous intéresser aussi, et puis le superbe bouquin sur Miyazaki. J'ai cru comprendre que tu traduis le japonais aussi, d'ailleurs.
Non, je travaillais avec une traductrice.
D'accord.
Donc, je mettais en forme ce qu'elle, elle mettait en français.
D'accord. Mais voilà, c'est une spécialité un petit peu aussi, le cinéma d'animation japonais.
Oui, j'adore l'animation.
Ouais. Sinon, je mange des sushis aussi. Pardon.
D'où les poissons, la mer, tout ça. Voilà. C'est pour ça que tu sais tout ça, c'est fabuleux. Merci.
De cette précision
absolument indispensable. C'est moi qui ai insisté, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, messieurs. J'aurais bien voulu qu'on parte sur Mad Max, mais avant la première question que vous m'avez suggérée et que je reprends immédiatement, c'est pour vous le post-apocalyptique, c'est quoi ?
Un revenu, pardon.
Oui, c'est bien.
Non, le post-apo, pour moi, c'est l'avenir, c'est le futur, quoi. C'est tout simplement le futur. En plus d'être distrayant de l'écrire maintenant, parce qu'on se marre pour l'instant, ça va, on a de l'électricité, on bouffe, on a de l'eau, tout ça. Mais petit à petit, on aura moins d'électricité, on aura moins de bouffe, on aura moins d'eau, on aura plus de gens et moins de trucs à leur mettre dedans. Et donc ça va se déliter petit à petit et ça va arriver à des situations où ça sera de la survivance, en fait, voilà, comme le titre du bouquin de Matheson dont on parlait tout à l'heure. Ça sera de la survivance, les gens vont essayer de se démerder. Moi, ma vision, elle n'est pas nucléaire, elle n'est pas épidémique, elle n'est pas zombie, elle est juste ce qu'on a maintenant. Dans 70 ans, ça ressemblera à quoi? Parce que qu'est-ce qu'on nous offre comme futur? Pas grand chose. On nous offre des centrales nucléaires qu'on ne sait pas gérer, qui tombent les unes après les autres en panne, ou qui nous foutent la merde. On va avoir des pénuries de bouffe, on va avoir des pénuries d'eau, on va avoir un certain nombre de choses comme ça. Si on continue à s'organiser en société telle qu'on est, on va dériver vers quelque chose qui va donner cet inestimable ouvrage que vous voyez ici, qui est magnifique, pour un prix modique de je ne sais pas combien.
Ah oui, 23,50.
Ah oui, 23,50.
Ouais, il ne grave pas quand même.
J'ai payé 23,50
pour acheter
le bouquin, mais ça suffit.
Oui.
Ouais.
Donc, je pense que le post-apo, c'est tout simplement notre futur à plus ou moins long terme. Ça soit, c'est pas être catastrophiste, parce que si ça se trouve, on va très bien s'en sortir. On va très bien se démerder de vivre en communauté plus petite, de vivre avec moins de besoins, de vivre avec moins de téléphones portables, avec moins d'électricité. Regardez, cet après-midi, je parlais tout à l'heure dans une autre conférence de l'histoire du téléphone portable qui coûte de l'énergie, qui est fabriqué à grands frais ailleurs et qu'on a ici pour à vil prix parce que c'est des esclaves qui les fabriquent. Ça consomme de l'électricité, ça nous crée des besoins, on a tous des besoins sur nos téléphones portables, etc. Là, ici, il n'y a pas de prise électrique. Les prises électriques dans la salle où on signe nos bouquins, elles sont à 5 mètres du sol. D'accord ? Ce qui est très commode. Les prises sont là-haut, donc ça veut dire que je ne peux pas les utiliser. Donc mon téléphone a faim, il réclame sa quittance, qu'il ne va pas avoir, qu'il va tout simplement s'éteindre à un moment donné, et ma vie ne va pas s'arrêter. Enfin, j'en sais rien, mais j'ai jamais fait l'expérience de mon téléphone complètement déchargé. C'était une idée atroce qui m'empêcherait de dormir. C'est pour ça que je bois en dormant, d'ailleurs. Voilà, un jour ou l'autre, ces trucs-là vont s'arrêter, comme d'autres trucs se sont arrêtés. On se crée des besoins, on se crée des choses qui ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire, il y a 30 ans, j'ai connu cette époque, il y a 30 ans, j'étais pas très vieux. Si, j'étais vieux déjà. Mais, bon, et j'avais pas de téléphone portable il y a 30 ans. Je me démerdais très bien. Dans ma bagnole, il n'y avait pas de GPS. Quand je voulais aller quelque part, je regardais la carte avant. Ah, c'est tout. Maintenant, je rentre dans ma bagnole, je dis je veux aller là, le GPS s'allume et il me dit tu prends à gauche, tu prends à droite, bientôt il tournera le volant tout seul. Ah. Mais ça, c'est des trucs qu'on se crée, c'est des trucs qu'on se crée. Donc qu'est-ce que ça va être le post-apo? Je pense que ça va tomber les uns derrière les autres, ces machins-là, et on va retomber à ce qu'on était avant. Peut-être pire dans un premier temps parce que les gens ne vont pas s'habituer comme ça. Il va y avoir des mouvements de foule et de rébellion et de gens qui vont vouloir leur téléphone portable et l'exiger de je dis téléphone portable, c'est une image, mais qui vont vouloir le truc qu'ils ont maintenant et qui vont l'exiger de leurs gouvernants et qui ne pourront plus leur donner. Parce qu'il n'y aura tout simplement ni plus les ressources, ni plus la technologie, ni plus les gens pour le faire, ni plus la flotte, ni plus les gens pour les acheter. Parce que quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de consommation. S'il n'y a plus de consommation, ça s'arrête. Voilà, j'ai fini.
Raphaël, le post-apo, c'est quoi?
Le post-apo, c'est le miroir des peurs du temps qui passe.
C'est bien ça.
C'est joli.
Ah, c'est joli ça.
Bah, en fait, bon, parce que ça fait plusieurs années que je travaille sur un projet justement sur le post-apo. C'est le prochain en fait, projet livre à l'essai sur lequel je suis en train de travailler. Donc je suis un peu dedans, en plein. Et le post-apo, ça remonte au 19e siècle. On va dire le premier roman, 1826. Et que voilà, Marie Shelley, le dernier homme.
Oui, le dernier homme. Oui.
C'est le premier, en fait, qu'on considère en tant que fiction. Fiction classique.
Fiction, oui.
Et simplement, ben, voilà, en travaillant sur de décennie en décennie, on voit bien que le post-apo, c'est ce miroir des peurs. Au 19e siècle, c'était la peur de la comète, du déluge, de la glaciation. Passé la grande guerre de 14, c'est tout d'un coup le sujet, c'est la civilisation immortelle parce que la guerre peut la détruire. Donc il y a toute une littérature qui est générée pendant l'entre-deux-guerres sur ce thème-là. Qu'après 1945, c'est la bombe atomique. Donc ça marque énormément la culture américaine. Et que jusqu'aux années 80, jusqu'à la fin de la guerre froide, on a énormément de récits, que ce soit films, littérature, bande dessinée, qui vont traiter de la guerre atomique. Avec une des conséquences, ce sont les déserts radioactifs et les mutants. Passé la guerre froide, la littérature ou le cinéma des années 90, c'est assez intéressant si ça traite sur la question écologique. Et que là, par exemple, les années 2000, c'est la peur de l'épidémie. Donc, ce sont toutes les œuvres avec des infectés, des zombies. Voilà, et toutes les autres questions, c'est la question du dérèglement climatique et tout ça. Donc, depuis plus d'un siècle, le post-apo se charge de nous montrer les risques. Alors, vous avez les risques qui sont, on va dire, naturels. Il y a un séisme, des choses, une comète, des choses auxquelles on ne peut rien faire. Et puis, vous avez tout un énorme tronçon, c'est la responsabilité de l'homme dans ses propres malheurs. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse, ce qu'on discutait. Et que la science-fiction, dans un sens très large qui est l'anticipation ou le post-apo, elle se charge en permanence de nous dire attention, voilà ce qui pourrait arriver à un moment donné. Donc Laurent il choisit voilà, de traiter sur certains aspects. Il y en a d'autres qui vont utiliser le thème de l'épidémie, parce que depuis l'épidémie de la vache folle, en passant par le sida, en passant par les grippes aviaires, jusqu'à Ebola aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui nous fait extrêmement peur. Et puis après, il y a une autre thématique qui est, on se rend compte que notre civilisation, elle est extrêmement fragile. En fait, aujourd'hui, notre civilisation, la technologique, tu as fait une très belle présentation, c'est un colosse au pied d'argile. Et je prends toujours un seul exemple, c'est le tsunami au Japon en 2011. On s'est rendu compte que la troisième puissance économique du monde avait du mal à organiser les secours dans la région qui était touchée, parce que notre infrastructure est extrêmement fragile. Plus on utilise la technologie, notamment la technologie électronique, plus on a une société effectivement hyper développée, mais il suffit d'avoir une éruption volcanique, une éruption solaire, je ne sais pas si vous êtes au courant, l'an passé, à une semaine près, on a failli retourner au 18e siècle. Parce qu'on a échappé à une éruption solaire extrêmement violente. Voilà, ce sont ces facteurs-là qui font qu'on a une prise de conscience que notre civilisation est très très fragile. Et je vous citerai un roman que je vous conseille tous, qui a écrit alors par un républicain américain, mais le roman est intéressant, c'est deux secondes après. C'est une attaque en fait EMV, une attaque électromagnétique au-dessus des États-Unis, de l'Europe et du Japon. Et du jour au lendemain, donc, toute la société est bloquée parce que l'électronique ne marche plus.
C'est ce qui se produit.
Sachant que,
solaire,
voilà. sachant que tout est à l'électronique. Et le roman, il est magistral parce qu'il nous montre un an d'existence d'une communauté dans la montagne américaine. Ils sont 10 000 au début, à la fin du roman, ils sont plus que 1 000. Et que ce qui est intéressant dans le roman, ce sont les séances du comité d'urgence du village où le médecin il explique, bah là, première semaine, il y a tous les diabétiques qui vont y passer. Parce qu'on n'a plus de pharmacie, parce qu'on n'a plus d'électricité, on ne peut plus sauver les vaccins, les sérums. Et puis au fur et à mesure des mois, il explique, ah ben, il n'y a plus de médicaments là, donc il va falloir enfermer tous ceux qui sont dépressifs. Parce que comme ils n'ont plus de médicaments, ils ne peuvent plus être traités, donc ils risquent d'être dangereux. Et il nous montre, et puis l'incapacité de faire fonctionner des véhicules, de faire fonctionner n'importe quoi, voilà. Ça c'est un des aspects. Je finirai pour faire mon petit tour. Il y a l'aspect, c'est que nous sommes des gens très civilisés, inscrits dans une société très civilisée, qui utilise une technologie très civilisée, et qu'en fait, ce que cette littérature ou ce cinéma pointe du doigt, c'est le fait que si un jour tout s'effondre, on est incapable de cultiver, on est incapable d'aller tuer le cochon, on est incapable en fait de survivre. Et que la science-fiction post-apo, depuis le 19e, traite de ce rapport-là, c'est-à-dire entre l'impact de la société industrielle et le rapport de l'homme à son environnement. Et donc gardez toujours en tête ça. Et donc toutes les œuvres, même Walking Dead, des choses comme ça, traitent en permanence de ces questions.
Exactement. Ouais. Walking Dead a un raccourci qui joue sur le. En fait, ce qui est intéressant dans Walking Dead lui-même, c'est l'histoire avec les zombies. Parce que l'histoire autour, elle est pas très développée ou quoi que ce soit. Il y a pas de. Mais ça joue sur les peurs. En fait, on joue sur les peurs et cet environnement-là qui amène des peurs, qui amène. Pourquoi les zombies dans Walking Dead? Pourquoi les mecs ils ont choisi de faire ça avec des zombies? Parce que ça faisait un joli titre, Walking Dead, déjà pas mal. Et puis après, parce que qu'est-ce que c'est que le zombie dans Walking Dead? Le zombie dans Walking Dead, c'est l'autre. C'est comme l'ennemi, c'est l'autre, ou machin, qu'est-ce qu'il avait dit Sartre?
L'enfer, c'est
l'ennemi. Voilà, c'est écrivain de seconde zone. Et donc, c'est exactement ça, c'est qu'à chaque fois, on sait que l'autre est l'ennemi dans Walking Dead. Dès qu'on entend un bruit, c'est l'ennemi. Dès qu'on voit une ombre, c'est l'ennemi. Voilà, on sait ça d'office. Donc ça fonctionne là-dessus. C'est pas l'aspect post-apo qui est intéressant. Dans Walking Dead, l'aspect post-apo, il est là parce que c'est une excuse pour avoir des zombies. C'est tout.
Ah, je suis pas d'accord.
T'as le droit de pas être d'accord, mais c'est moi qui ai raison.
Voilà. Je suis vraiment pas d'accord. Justement, le zombie n'est que alibi pour parler de l'humain. L'humain, c'est l'incapacité à s'entendre.
Ça, c'est la version intelligente. Maintenant, voilà. Tu penses vraiment que les studios américains, ils ont réfléchi à ça? Ils ont dit, on va faire du blé, et on va faire, faut qu'il y ait du sang et du cerveau et du cerveau, de la cervelle partout. Voilà.
On va mettre les deux.
Non, mais tu regardes le casting de Walking Dead, c'est intéressant d'ailleurs comme truc sociétal. Tu regardes le casting, il y a Michonne la Black, le type, le patron de tout le monde, c'est un flic. Il a son fils qui porte son chapeau de flic. Il y a le type avec la arbalète, etc., qui est en
c'est
rebelle.
Des archétypes.
C'est que des archétypes.
C'est des archétypes.
C'est que des archétypes. Ils ont mis Grec dedans parce qu'ils n'avaient pas leur quota d'asiatique. Donc on a tout un truc qui est bâti sur des codes.
Si tu t'arrêtes à ces archétypes, ce qui est intéressant dans Walking Dead, c'est que le zombie, c'est le troisième acteur Parce que grosso modo, la fiction post-apo, c'est tout s'effondre, on repart à zéro, et vous avez les derniers civilisés et les nouveaux barbares. Ouais. C'est une thématique qui est constante. Et que le zombie s'intègre comme un troisième acteur, et qu'il est simplement, il renvoie à ce que nous sommes en tant que monstres.
Bien sûr.
Du coup, la violence, le zombie, il dévore les gens, il n'y a pas de problème, mais parce que c'est sa fonction. Mais ce qui est marquant dans la série, c'est plus la violence entre les groupes humains.
Ah oui, entre des humains en particulier.
C'est
ça qui fait plus marcher le truc. Voilà. Le reste est juste l'aspect gore qui attire. C'est l'aspect gore qui est vendeur. Voilà. C'est l'aspect vendeur. C'est on va exploser des mecs à la mitrailleuse et tout ça. C'est toujours fun. Ça, enfin, bon, ça fait du bruit.
Zen Nation, qui est une nouvelle série de zombies, est beaucoup plus rapide.
Ah, je l'ai pas vu.
Mais bon, on s'éloigne.
On va recentrer un petit peu. Oui, justement, on parlait de violence et de dérives sociétales tout à l'heure. J'en arrive donc à mon Mad Max. Je vais vous caser quand même. J'y tenais parce que...
On a parié entre nous qu'elle n'y arriverait pas.
Eh bien, vous avez perdu.
On a repoussé de moi à peu près.
Ouais, bon, vous avez
gagné un quart d'heure.
Ceci dit, je trouve que c'est un point de départ intéressant. Parce qu'on a, sur la trilogie, justement, la dérive sociétale dont tu nous parlais avant, et la montée de la violence et des affrontements des groupes humains, et qui trouve son point d'orgue dans le deuxième. Pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui nous attend, ou est-ce que c'est vraiment purement de la science-fiction ?
Mad Max ?
Ouais. Oui.
Toute la série dans son ensemble ?
Oui.
Ouais. La série dans son ensemble. Pour moi, celui qui est réaliste, c'est le 2. Mm-hmm. Voilà. Mais parce que je le vois comme effectivement un futur possible. Le premier, c'est pas du post-apo.
Non.
Le premier, c'est une société.
C'est du pré-apo.
C'est du pré-apo. Si tu pré-apo, c'est bien. Pré-apo.
Mais c'est de l'entropie.
Ouais, si tu veux. Ouais. Mais le deuxième, c'est du post-apo, parce qu'on est beaucoup plus tard, parce que les guerriers de la route, tout ça.
Il n'y a plus de cadre social.
Le deuxième, c'est un film qui était, on en a discuté tout à l'heure, ce n'était pas si novateur que ça, parce qu'il y a plein d'autres choses qui ont été faites en littérature, notamment au niveau du post-apo, mais... Le premier vrai post-apo commercial cinématographique, c'était le deuxième Mad Max, à mon sens. Voilà. Et est-ce que c'est de la science-fiction, ou est-ce que c'est de la prospective, ou est-ce que c'est... moi, je dirais que c'est du post-apo, et à mon sens, le post-apo, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un futur possible. Voilà. Alors, est-ce que un futur possible, c'est de la science-fiction ? J'en sais rien, mais c'est... après, c'est une question de terminologie. Moi, je dis... le post-apo et notamment le deuxième Mad Max, c'est et pas parce qu'il y a Tina Turner dedans, ça, machin, Tina Turner, enfin, bref. Donc le deuxième Mad Max, c'est du post-apo parce que c'est un univers de post-apo, c'est un univers d'après-civilisation organisée avec des groupuscules, avec des types ultra-violents qui se baladent, mais tout ça, mais tout le monde fait pas du post-apo comme ça. Le post-apo, c'est pas ça. Ça, c'est un post-apo. C'est un courant de post-apo. Moi, je fais complètement autre chose que ça. Il y a d'autres gens qui font totalement autre chose que ça. Jean-Marc Lini fait complètement autre chose que moi. Donc, c'est, on a tous notre vision et qui pourquoi pas, pourrait être... je vous en prie, asseyez-vous devant. La vision post-apocalyptique, elle est multiple. Comme la science-fiction est multiple, comme n'importe quoi, comme la fiction, comme la littérature générale est multiple, c'est personne n'a la vérité vraie, personne ne sait, jusqu'au moment où un type se dira, dans 70 ans, ça, c'est la Bible. Parce qu'il s'est vraiment passé ça. Voilà.
Tu travailles bien le truc.
Raphaël, je te cite, si tu permets. À plus d'un titre, Mad Max 2 constitue le maître étalon du genre post-apo des années 80. En quoi c'est un maître étalon ?
C'est bien, hein ? J'ai bien émergé sur ce coup-là. Je t'ai coupé la chic parce que j'ai dû prendre toutes tes répliques.
Non, parce que...
Je suis pas sûr que vous soyez tout à fait d'accord sur tout, de toute façon.
Non, mais Mad Max, oui, c'est la grande figure des années 80, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, le post-apo, l'idée, c'est de faire table rase, donc on repart à zéro, tout s'est effondré. Et la lutte entre groupes de survivants, ça remonte à... J'ai lu, je sais pas, dernièrement, j'ai relu un roman de Rosny Henné, La Force Mystérieuse. Il y a une lutte entre groupes. Oui, le bouquin, il est 1908. Donc, c'est pas... La thématique de Mad Max, c'est pas une thématique qui est nouvelle. C'est une thématique qui part dès le départ dans le champ, simplement, par rapport aux années 80, par rapport à une esthétique, par rapport à un état d'esprit, par rapport à des valeurs culturelles ou autres.
Mais c'est cinématographique.
C'est cinématographique. Ouais. Il se prêtait à être à la figure des années 80. Je pourrais par exemple évoquer la SF des années 70 post-apo. Mm-hmm. Elle est très pastorale. Oui. Je vais citer par exemple Simon Dufleuve, qui est une très... Voilà, Le Mai, ou ouais. Simon Dufleuve, qui est
contemplatif.
Voilà. Donc on était dans l'esprit des années 70, hein, c'est quand même les années hippies, ce genre de choses. Et ben, il y a une littérature, une bande dessinée post-apo qui relaie ses idées, le retour à la Terre. Avec les années 80, c'est le retour par contre à des univers plus urbains. Parce que bon, il y a Mad Max, mais je pourrais citer Akira, manga, film d'animation qui se passe en milieu urbain. Il y a plein d'autres choses.
Tu me dis si je me trompe, mais Mad Max, le premier, il a été réalisé comme il a été réalisé avec ce visuel-là et cet univers-là, parce que les mecs, ils n'avaient pas une thune quand ils ont fait le bouquin. Ils avaient une bagnole, un acteur et un désert, et un filtre rouge sur la caméra.
Et des motos.
Le premier film n'est pas, on va dire,
il est pas post-apo,
sans strict, il n'est pas post-apo, il est dans l'esprit des années 70, oui. Donc film assez très critique. Mm-hmm. Voilà, 81, Mad Max 2, c'est du post-apo, c'est le guerrier mécanique.
Le guerrier de la route,
c'est l'esprit des années 80. C'est, voilà. Après, on peut évoquer d'autres figures au fur et à mesure du temps. Mais voilà, Mad Max, c'est les années 80. Il correspond à une époque.
De toute façon, on est sur le Mad Max 2, sur cette disparition, cette crise énergétique, parce qu'on est sur la lutte pour le pétrole, ce qui n'est juste pas un hasard après le deuxième choc pétrolier, quand même. Donc on est bien dans le cadre de ce qu'on définissait tout à l'heure, des craintes du moment. Et alors les craintes de maintenant, c'est quoi?
Ce que je disais tout à l'heure, la pandémie, la crise écologique, dérèglement climatique, économique, la dépendance à l'énergie, c'est-à-dire il y a une série, la révolution aux États-Unis, il y a eu deux saisons, c'est la disparition de l'électricité du jour au lendemain, donc retour à une forme de Moyen-Âge 18e siècle, très sympa.
On retrouve d'ailleurs au départ ce côté pastoral que tu évoquais, puisque est sur une petite communauté refondée.
Il y a toujours les petites communautés. Voilà. Mais le spectre des années 2000, c'est essentiellement l'épidémie. Ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène-là, qui débute au début des années 2000, avec notamment 28 jours après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme de déni de toute la question écologique. Comme j'ai travaillé sur le livre sur zombies, ce qui en ressortait de toute la production, en fait, le zombie, jusqu'aux années 2000, n'est pas post-apo, à part les films de Romero. Il s'intègre dans la fiction post-apocalyptique à partir des années 2000. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi autant de romans, pourquoi autant de films et des séries et des bandes dessinées de zombies infectés, c'est parce qu'on ne cesse de traiter qu'uniquement sur la question de l'humain, l'humanité, parce que ce qui nous fait flipper dans notre inconscience collective, c'est la chute de l'humanité. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du Japon et de la catastrophe au Japon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte, donc nous sommes un colosse qui est l'argile, du jour au lendemain, tout pourrait s'effondrer, on pourrait se retrouver dépouillé de tout. Et ça, c'est une grande peur collective, qui est consciente et inconsciente. Et d'une certaine manière, les films de zombies post-apo, ou les œuvres de zombies post-apo, ça traite de l'humanité a chuté, elle doit survivre, elle doit se battre contre un ennemi, contre des ennemis, puisqu'il y a le zombie et l'humain. Et par exemple, la nature, l'écologie, on n'en parle pas. La nature, elle est là, tout va bien. Mais par exemple, qui fait encore fonctionner? C'est toujours un délire que j'adore dans ce type de fiction. C'est tout le monde est mort de l'épidémie de zombies. Qui fait encore fonctionner les centrales nucléaires? Dans ce type de fiction, on ne traite jamais de ces questions-là.
Si ça se trouve, c'est des zombies, on n'est pas dans la merde.
Peut-être des zombies qui font fonctionner. Ou alors des mutants. Donc il y a une forme de déni. C'est-à-dire qu'on ne traite que de l'homme, on ne traite pas de l'environnement. Sachant qu'on est dans une période où la question du dérèglement climatique devient quand même une réalité, qu'il y a des cycles de conférences internationales depuis le début des années 90, qu'on cesse de poser la question, qu'on voit le réchauffement, qu'on voit tous ces dérèglements, cyclones, etc. Maintenant, la fiction, elle semble focalisée que sur cette peur de la chute de l'humanité.
Et le problème aussi, il y a aussi le fait que l'histoire de, par exemple, Walking Dead, pourquoi c'est focalisé, d'un côté il y a les conflits entre les mecs, et de l'autre côté il y a les zombies que tout le monde combat, et on ne parle pas non plus d'écologie, mais absolument pas dans Walking Dead, il n'y a absolument aucune notion.
C'est l'archétype.
C'est totalement occulté, c'est aussi parce qu'on est sur une série américaine à grand spectacle, et qu'on ne va pas traiter plusieurs problèmes à la fois. On traite un truc à la fois, de la fiction pure et dure. Je ne pense pas que si on avait mis dedans, on aurait pu mettre de l'écologie dedans, hein. Je vais commencer à être anti-américain, on va si on commence à traiter l'écologie et qu'on dit qu'à ce moment-là, la situation de Walking Dead, elle est quasiment pas possible telle qu'elle apparaît à l'écran. D'accord ? Parce que déjà, dans Walking Dead, on voit des trucs, ça se passe des années après que la catastrophe soit arrivée. Les mecs, les champs de blé, ils sont toujours comme ça, quoi. Il y a toujours des arbres, il y a des fruits dessus, machin, on peut encore y accéder, il n'y a pas des ronces autour. On a presque l'impression, des fois, ils traversent des champs cultivés, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Voilà. Il y a des routes, ils peuvent rouler dessus avec leur voiture. Ils ont des voitures qui roulent, c'est très bien, donc ça peut rouler pendant un certain temps, les voitures, sauf les voitures françaises peut-être, mais bon, les voitures américaines, ils n'ont que des voitures américaines dans ce truc-là. Si, ils ont une voiture japonaise, j'ai remarqué, ça m'arrange, j'en ai une aussi. Bon. Et donc, ils sont sur des routes, les mecs, ils roulent sur des routes en convoi avec des motos, des camions, des trucs, des machins, mais il n'y a pas un brin d'herbe qui a poussé sur ce putain de goudron, quoi. Je veux dire... Dans le bled de mon vieux.
Il y a des cantonniers.
Non, mais dans le bled de mon vieux, si le cantonnier il passe pas, te roule plus sur la route au bout de 3 semaines. Parce que le goudron il a bougé, parce que truc, parce que machin, parce que c'est mal entretenu. Et là, les mecs ils roulent partout, ils vont partout, dans tous ces petits villages, ils entrent dans les villages et tout. Et
non, il y a quand même il y a quelques nid-poules et.
Il y a quelques nid-poules.
C'est un écueil sur lequel Révolution d'ailleurs n'avait pas.
Et c'est l'état des maisons.
Oui, c'est intéressant.
Quelqu'un a fait le ménage.
C'est une très
chez moi, si je ne fais pas le ménage, il y a des toiles d'araignée qui pendent des murs en bout de peu de temps.
Si on revient sur le...
Chez vous, mais, je veux dire, les mecs qui rentrent dans des baraques, elles ont été abandonnées depuis 18 mois, ils cassent la vitre avec un revolver, parce que c'est beaucoup plus joli que d'essayer d'ouvrir la porte une fois qu'elles sont ouvertes, parce que jamais. Quelqu'un sort le revolver, qui rentre, reste derrière, cocotte, c'est peut-être dangereux, etc. Donc voilà, hop, il rentre, et puis hop, il n'y a pas une toile d'araignée, il n'y a rien, il ouvre le placard, il y a des boîtes de conserve, tout.
Là, on est sur un cadre de série de télé, c'est forcément...
Ce que veut dire Laurent, effectivement, il a tout à fait raison, c'est que 90% aujourd'hui de la production culturelle qui va du film au jeu vidéo en passant par leur monde dessiné ne traite que de la civilisation de l'humain.
Oui.
Et il y a donc ce déni de la question écologique. Et je cite toujours, pour traiter de cette question écologique, c'est deux films qui sont sortis l'an passé, After Earth avec Will Smith, je ne sais pas si vous l'avez vu, et Le Transverse Neige, un film coréen. Les deux films sont situés aux antipodes justement de la réflexion sur l'impact du dérèglement climatique sur nos sociétés. Dans After Earth, l'histoire c'est que l'humanité a saccagé la planète. Donc, crise écologique, cyclone, destruction. Et l'humanité s'est créée des vaisseaux spatiaux. Ils sont partis dans l'espace, ils sont allés coloniser une autre planète. Ils sont partis, nickel, impeccable. L'idée, dans le film, on ne traite jamais de cette question, c'est qu'on a massacré une planète, on est parti ailleurs, parce que la science nous a permis d'aller ailleurs. Impeccable. Dans le transpersonnage, c'est tout l'inverse. C'est qu'au début du film, ils expliquent que l'humanité a créé un gaz qui devait refroidir l'atmosphère pour régler la question du réchauffement climatique. Sauf que ça s'est mal passé et qu'on est arrivé dans une ère glaciaire. Donc on a deux discours complètement à l'opposé. C'est que dans le film ricain, américain, c'est-à-dire c'est un film hollywoodien, on a détruit la planète, mais c'est pas grave, on avait la science, elle nous a permis d'aller voir ailleurs. Et on se pose plus la question. Dans le film coréen, une fois on aborde la question, c'est, parce que ça c'est les tenants de la science... de la science dure, qui est toujours de dire on aura toujours une science qui nous permettra de régler les problèmes générés par la science précédente.
Comme il y avait au 19e siècle un mec qui avait dit en 1900, Paris sera enterré sous 18 mètres de crottin de cheval. Voilà. Et puis un con a inventé la locomotive à vapeur. Et donc du coup, fini. Après on a eu la vapeur, mais la vapeur va nous étouffer. Et un con a inventé l'électricité. Donc après on avait les trucs électriques. Et maintenant, on a les trucs électriques, ça ne pollue pas, mais il faut des centrales nucléaires pour faire de l'électricité. Donc voilà, donc c'est toujours ça. La solution, elle n'est jamais technologique. La solution, elle doit être, à un moment donné, elle va être humaine. Il va falloir prendre une décision. Il va falloir dire, ça suffit, les mecs, c'est bon, là, voilà. Maintenant, l'électricité, on va la faire avec des choux-fleurs. Voilà. Et les choux-fleurs, on les mettra dans des sous-sols, et les choux-fleurs, ils pédaleront. Voilà, et ils feront de l'électricité. Voilà.
Wow.
Voilà.
Ça, on ne connaît pas les mêmes choux-fleurs.
Ça, c'est un concept. Putain, il faut que je prenne des notes.
Prends des notes.
Voilà, c'est juste pour dire que ces deux films, ils illustrent complètement aujourd'hui le débat qu'il peut y avoir au sein de la culture, l'imaginaire populaire,
C'est d'un côté, il y a ceux qui font « c'est pas grave, on continuera à aller jusqu'au bout,
de toute façon,
et c'est pas bien grave ouais. ». Et puis, il y a d'autres qui, voilà, qui...
On évoquait tout à l'heure la différence entre le cinéma et la littérature sur le post-apo, parce qu'on est quand même un peu sur un cas de cinéma, là, normalement. Je vous demandais tout à l'heure si l'écologie, si on pouvait parler d'écologie que dans un cadre de catastrophe, et dans le cas du cinéma, est-ce que c'est lié justement au fait qu'il faut quelque chose de visuel ou
Là, tu poses deux questions.
Oui, je suis en train de me mélanger. Je reprends.
C'est intelligent comme question.
C'était trop intelligent, c'est ça. Bon, est-ce que le genre
post-apo, se porte plus au cinéma ou à la
voilà, c'est ça, grosso modo. Est-ce que le traitement du post-apo est différent en littérature ou par rapport au cinéma? Parce que non. On n'est pas plus dans un mode catastrophe obligatoirement.
Et surtout pas depuis que la technologie a permis des effets visuels qui font que le post-apo ne coûte que dalle à produire. Parce que ce qui coûte cher dans un film, c'est quand tu fais des décors réels, voire même quand tu fais des décors virtuels. Quand tu as un film de post-apo où tu n'as rien, où tu n'as pas de figurant, où tu n'as que dalle, bon, tout ce qui coûte cher, c'est de faire des matte paintings ou d'avoir des trucs comme ça. Mais le traitement lui-même du post-apo sur le fond, est-ce que philosophiquement, dans les bouquins, il y a des différences entre...
D'abord, les mêmes thématiques.
C'est les mêmes thématiques. La gestion n'est pas...
Dans le post-apo, ce qui compte, ce n'est pas le style. Mm-hmm. C'est le fond.
C'est le fond.
Voilà. C'est pas comme la littérature générale. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui disent de la littérature générale. Franchement, j'ai essayé une fois, c'est super dur. Hein. Non. Donc, là-dedans, ce qui compte essentiellement, c'est le style et comment on va traiter un truc avec style. D'accord, bon, c'est... Voilà, je passe par exemple, pour me citer quelqu'un, là, 3 jours chez ma mère, d'accord, qui a eu le prix, je sais pas, enfin d'autres,
et
machin, voilà, ceux-là. Et donc, c'est, il traite 3 jours chez sa mère, machin, ça, de base, c'est un truc de naze. Bon, il faut quand même le dire. Bon, voilà. Mais on lit le truc, c'est écrit avec tellement de style que ça en devient passionnant. Ça en devient absolument passionnant. Ce mec ne dit rien pendant 300 pages, mais... C'est super à lire. Voilà. Bon, voilà. La différence avec la littérature de genre comme la science-fiction ou le polar ou le thriller ou le post-apo qui est un genre de la science-fiction, on va dire, il faut mettre des étiquettes, il faut mettre des étiquettes surtout. Le post-apo n'a pas besoin de style, il a besoin d'un environnement. On génère un environnement, on crée quelque chose dans le post-apo, on crée une situation. Voilà. Et elle peut avoir du style. Bon, par exemple, je citerai Justine Miogret dans Gueule de Truie, voilà, qui est un post-apo avec un style monstrueux. Cette gonzesse, je la hais. Elle écrit terriblement bien. C'est une horreur. Et il y a d'autres gens qui écrivent, bon, dans les années 70, toi tu citais Lemay, etc., dans les années 70, par là, il y avait beaucoup moins de style, même si Lemay, c'était quand même ceux qui s'en sortaient le mieux. C'est ceux qui s'en sortaient le mieux, mais on pourrait en citer d'autres qui étaient beaucoup moins soigneux sur le style. Mais ils racontaient une histoire, ils racontaient une situation, ils racontaient quelque chose. Voilà. C'était pas je vais passer 3 jours chez ma mère, elle est malade, elle est tombée dans le jardin au bout du 2e jour, et tout ça, et c'est le chien du voisin qui a prévenu, et tout ça, ils ont appelé les pompiers, tout ça, truc. Bon, 300 pages, bordel. 300 pages. Putain, c'est un truc hallucinant, quoi. Enfin, bon, voilà. Mais ça présente un intérêt parce que d'un point de vue de style, c'est intéressant. Alors, la seule différence qu'il pourrait y avoir entre le post-apo écrit et le post-apo cinématographique, c'est que cette histoire de style dans le bouquin va être difficile à retranscrire à l'écran. Faire des phrases et machin et trucs, qu'est-ce qu'on fait à l'écran avec ça, quoi? Hormis dans les dialogues, bon, je veux dire.
Non, oui et non.
Le cinéma et du style.
Voilà.
Mais
je dis pas que
le cinéma n'a pas de style. Ce que je dis, c'est que le style d'un bouquin et le style du film qui est tiré de ce bouquin, souvent, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est aussi pour ça qu'on regarde un film et qu'on se dit, mais putain, mais il n'a pas lu le même livre que moi, l'autre, quand il a fait le film. C'est souvent on dit ça. Moi,
après,
je regarde
y a
films,
pas
voilà.
autant de
et
films.
Des fois, et des fois, je trouve des films super bien. Je lis le bouquin après,
il y a
encore mieux.
Mais...
Parce que le livre, c'est toujours mieux.
Il y a Manil. Mais tu ne peux pas dire que quelque chose comme Le Dernier Combat, ça n'a pas de style.
Mais je ne dis pas que ça n'a pas de style. Je ne dis pas que ça n'a pas de style. Mais Le Dernier Combat, c'est une espèce de post-apo aussi.
Bah oui, voilà. C'est bien pour ça que je te
mais
suis c'est celui-là.
Pas... C'est pas pour ça. Mais c'est pas pour ça voilà.
Je pense que ce n'est pas une question de style, mais c'est non, une bien question sûr. D'idée.
Voilà, oui. C'est ce que je dis.
Le roman La Route est un roman exceptionnel.
Le film,
pour le coup, le film
est une catastrophe.
Personnellement, j'ai une très bonne bande dessinée et il y a aussi un très bon film.
Oui, mais La Route, McCarthy, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte rien. On est d'accord. Il dit que dalle.
Oui,
il est comme l'autre avec sa mère qui tombe dans le jardin et qui reste 3 semaines.
Donc
c'est.
McCarthy,
c'est le gars qui se promène. Non, mais bien sûr. Il raconte. Il raconte une ligne de vie. McCarthy raconte une ligne de vie. Voilà. Il raconte une ligne de vie.
Le mec. En forme de route.
Dans un monde radical.
Dans un monde radical, mais le mec avec son fils. Qui se balade dans un monde radical. C'est tout à fait très bien.
L'homme, le fils, enfin, il y a
le film, je me demande.
Oui, il y a le rapport.
Je vais te laisser la transmission. Elle se joue dans le.
Mais justement, tiens, c'est
un. En particulier, mais aussi dans l'univers parce qu'il n'y a plus rien.
Le post-apo, moi,
c'est qu'est-ce qu'on va laisser aussi.
C'est le fond, c'est-à-dire, c'est les idées. Et dans le travail que je fais, je peux la remonter à des romans du 19e siècle, des romans des années 50 jusqu'à des romans actuels. Peu importe le style, c'est les idées qui sont mises en avant. Et par exemple, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir, par exemple, retrouver la première occurrence, par exemple, du cannibalisme. Donc, j'arrive à remonter un roman de 1908 ou un roman de 1939 et de voir comment des idées qui aujourd'hui sont des idées complètement intégrées, dans, voilà, quand on regarde Walking Dead ou La Route où il y a des cannibales, le cannibalisme, ça remonte à très très loin. Et ce qui est intéressant, c'est comment, en termes d'imaginaire collectif, toutes les thématiques post-apo sont traitées donc, sur une longue mise en perspective historique, et comment, quand on lit un roman ou on voit un film des années 50, il est le reflet de son époque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment, par exemple, dans les années 50, autour de l'énergie atomique, les Américains, donc la bombe atomique, c'est le grand choc, que la littérature se met donc à écrire des récits de guerre atomique avec les conséquences qu'elles ont, et ben, y a certains auteurs qui continuent à défendre l'énergie atomique parce que c'est un moyen de renaissance. Donc il y a des romans, il y en a un qui s'appelle Renaissance justement, où c'est grâce à l'énergie atomique que la civilisation peut se rebâtir. Et il y a des auteurs qui eux sont beaucoup plus critiques, comme Aldous Huxley dans Temps futur. Où là, c'est les effets des radiations, donc avec la création des mutants. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est comment le post-apo se fait le miroir des peurs d'une époque, et comment, par exemple, le mutant a été une figure extrêmement importante de cette littérature des années 50 aux années 80, parce qu'elle est la conséquence de l'arme atomique, et comment cette figure-là a été remplacée, par exemple, par l'infecté de zombies dans les années 2000. Parce que la problématique de la société, de l'imaginaire, c'est plus la guerre atomique, c'est la peur de mourir d'une épidémie. Donc c'est ça qui m'intéresse dans ce processus.
C'est-à-dire que la mort de l'homme, enfin l'humain, est beaucoup plus terrifiante, tu veux dire, que la mort de notre monde. Peut-être parce qu'on a cette capacité de le quitter.
Là, j'ai parlé d'une trame, mais je pourrais parler de la trame écologique, qui est née dans les années 60, qui s'est développée dans les années 60-70. Qui a été assez important dans les années 90. Donc il y a ça. Il y a dans les années 70-60 aussi la question de l'entropie, comment un système se désintègre par lui-même. Voilà, le champ du post-apo, c'est que c'est un champ extrêmement large au niveau des thématiques.
Je suis plutôt dans cette thème-là, l'entropie.
Ce qui est fabuleux dans cet ensemble-là, c'est comment des voix multiples qui s'expriment à travers le support de la littérature, du cinéma, de la bande dessinée ou du jeu vidéo ou de ce qu'on veut, exprime tout un ensemble de réflexions sur qu'est-ce que la civilisation, comment peut-on survivre à la chute de la civilisation, comment peut-on reconstruire quelque chose. Et il y a des romans qui vont défendre par exemple l'idée d'un retour à la Terre, de reconstruire des choses. Pour moi, le film qui est vraiment qui intègre le plus la question écologique et la question du post-apo, de la civilisation de l'humain, c'est Nausicaa de Miyazaki. Alors je conseille le manga parce que le manga est une des plus belles œuvres existe. Le film est très intéressant mais différent, mais à travers ces 2 heures, on a vraiment un travail autour de l'écologie puisqu'on voit le développement d'une communauté de type paradis perdu qui essaie de préserver le reste de son environnement. et qui a le rapport de l'homme à la nature, de l'homme à son environnement. Donc voilà, ça c'est une des voies sur la question.
Il y a Pollen de Joël Vatrebert aussi.
Oui, il y a, voilà, ouais, aussi. Ouais. Ou sinon, après, je pourrais citer Soleil Vert, film de 1973, qui est fabuleux et qui explique comment notre surexploitation, voilà, le générique, rien que le générique est génial là-dessus, comment la surexploitation amène à la mort de l'environnement et à comment l'humanité devient son propre bétail.
Et avec la conclusion à la fin, quand Sol se fait suicider, en fait, où on voit toute la nature telle qu'elle était avant, avec les quatre saisons du Mali, je pense que
c'est ça. Oui, c'est ça, c'est les quatre saisons.
Donc, moi, je suis plus dans la veine, en fait, effondrement de la civilisation, mais effondrement de la politique, en fait.
Une forme d'entropie qui amène.
Tu disais, tu parlais tout à l'heure, tu évoquais brièvement le raz-de-marée et donc, Fukushima. Le tsunami, pardon. On a vu aussi les effets sur la Nouvelle-Orléans avec Katrina. Est-ce que l'une des peurs qui s'exprime à travers tout ça, c'est pas l'incapacité programmée de nos autorités, les gouvernements, de tout ce qui est encadrant, à nous protéger?
C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous protéger.
Voilà,
ça ne dépend pas d'eux.
Est-ce que
ça dépend d'eux à un certain niveau, parce que c'est quand même avec leur assentiment et le nôtre, puisqu'on est dans des démocraties, que ces gens-là nous ont offert tout ce qu'on a, tout ça, qui maintenant commence à provoquer ce genre de choses. Donc le réchauffement climatique, si on admet que le réchauffement climatique qu'il y a, il est provoqué par... par
la destruction de la couche d'ozone,
par l'activité humaine, exactement. Et donc, c'est pas en 5 minutes en disant, tiens, je vais éteindre la lumière aujourd'hui plus tôt, si tout le monde le fait, etc. Bon, ok, voilà. Mais ce truc, il est emmanché et ça a une telle inertie, ce truc-là, que la glace, elle va pas s'arrêter de fondre tout de suite, même s'ils arrivaient à prendre une décision. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils n'en prennent pas de décision en se disant ça. En se disant, je ne vais pas prendre de décision maintenant parce que ça va influer sur le commerce, on ne va plus vendre de téléphones portables, on ne va plus vendre de je ne sais pas quoi, etc., des crampes plats, de tout ce qu'on veut, d'accord ? Donc on ne va surtout pas prendre de décision qui ait un impact sur le commercial, parce qu'on a une crise financière là, qu'on ne sait pas quoi trop en foutre, d'accord ? Donc on va surtout ne prenons pas de décision, on fait un super colloque, machin truc, voilà, de toute façon c'est nos administrés qui payent, pas trop de problème. Donc on fait un super colloque, machin, et on laisse la page blanche à écrire à tous les mecs qui fabriquent tous les trucs dont on a besoin, etc., et qui continuent de polluer, qui continuent d'amener ce truc, et pendant ce temps-là, les icebergs fondent. Alors en même temps, c'est très bien parce qu'il n'y a plus d'icebergs pour rencontrer le Titanic. Mais le Titanic c'est fait, hein, voilà. Donc maintenant, voilà, les icebergs fondent, tout ça, qu'est-ce que je vais mettre dans mon whisky? Ça, c'est la vraie question, voyez-vous. Donc, non, mais je veux dire, le trip, c'est exactement ce qui se pose. Eux, ils se réunissent à Lagos ou je sais pas où pour une conférence sur l'écologie. Ça coûte je sais pas combien de tonnes de kérosène pour amener tous ces crétins là-bas discuter d'un problème qu'ils ne connaissent pas. Et pour ne pas prendre de décision, ils n'en prendront pas. Donc, comme d'habitude, ils n'en ont jamais pris. Ils ont fait. Je me rappelle du truc, comment ça s'appelait ce machin sur l'émission des gaz de serre, je ne sais plus quoi là.
Le protocole de Kyoto.
Ouais, le protocole de Kyoto, voilà. Protocole de Kyoto, il y a des dérogations. Parce que y a des gens qui ont le droit de polluer plus que les autres, parce qu'il y a des dérogations, quoi. Parce que bon, c'est du business, quoi, quand même. Et c'est surtout. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on dit que c'est pour aider les pays émergents. Mais ce n'est pas pour aider les pays émergents que les pays émergents ont des dérogations sur le protocole de Kyoto. C'est parce que c'est dans les pays émergents qu'on fabrique vos téléphones portables, et qu'on fabrique vos chaussures, et qu'on fabrique tous ces trucs-là. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ils font du business comme ça. Ils disent, ok, nous, on va moins polluer, hein, d'accord. Nous, on va faire des voitures qui polluent moins. On ne va déjà pas les faire, elles vont être faites ailleurs. Voilà, pour relativiser. On va faire des voitures qui polluent moins, on va faire des trucs qui polluent moins. Surtout, vous allez avoir un impôt, hein. On va vous coller un impôt sur l'essence parce que vous polluez drôlement fort, hein. Bah, ça craint, hein, quand même. Donc c'est toute cette situation-là, donc nous, on fait ça, on paye, on truc, on machin, parce qu'on a les moyens, c'est pas le problème. C'est pas le problème, il n'est pas là, d'accord. Le problème, il est qu'on nous raconte une belle fable en nous disant, pollueur-payeur, sans déconner. Qui est-ce qui pollue aux Indes et qui est-ce qui pollue à Taïwan? Parce que vous croyez que les Taïwanais, ils ont besoin des 500 millions de postes de télévision qu'ils fabriquent par an chez eux? Sans déconner. Hein? Les mecs, ils sont 10 millions. il bosse pour un salaire de misère, il fabrique votre télévision. Et non, ils peuvent polluer parce que eux, c'est des pays émergents. Mais le business, il est chez nous. Le pognon, il est chez nous. C'est chez nous qui rentre le pognon. C'est pas chez eux. Les mecs, s'ils avaient le salaire de ministre, ça se saurait, bordel. Enfin, je veux dire. Diable.
Diantre. Raphaël, donc, l'écologie, tu veux rebondir, là
est... Sur quoi? Sur
cet ensemble.
Là, on rentre dans un grand débat.
Ouais, on va
sur la tsunami et sur.
Oui. Plutôt sur la gestion de crise, en fait. J'étais pas sûr du.
La gestion de la crise, c'est un autre problème.
Voilà, c'est ça.
Mais ça provoque.
Ça provoque, non, complètement. Mais c'est un débat sur dans quel monde on vit, quel type de système.
Absolument.
Non, le Katrina, Fukushima, tout ce genre de choses, elle nous montre simplement notre incapacité à résister à la nature.
Surtout quand on a fait chier.
Voilà, quand la nature se met en colère, on se rend compte qu'on a du mal à résister.
Donc
je reviens encore à cette histoire du Japon, de l'idée du colosse au pied d'argile. On est dans une société extrêmement fragile. Et ce qui nous fait peur, c'est de voir comment on ne peut pas résister à la colère de la nature.
Et puis on a des infrastructures électroniques, comme tu disais, mais pas des infrastructures
extrêmement
physiques.
Ce qui explique donc qu'aujourd'hui, les fictions post-apocalyptiques des années 2000 vont traiter de la question de l'humanité, de la société, pas de la question écologique. Parce que ça serait remettre en question notre mode d'existence, c'est remettre en question notre système dans lequel on vit. Voilà, c'est simplement que les structures de production, notamment cinématographiques et télévisuelles, ont décidé que ce n'était pas ça les questions à aborder.
Et qu'on, la gestion de la fosse
est plus focalisé sur l'idée de la peur de l'humanité de disparaître, la peur de l'humanité de se retrouver dépouillée de tout ce qui fait sa civilisation, ses attributs. Souvent, par exemple, aussi l'idée du zombie, de l'infecté, c'est justement celui qui est censé nous... qui nous vole, en fait, ce qui fait qu'on nous sommes un être civilisé. Que la métaphore du zombie qui va nous transformer en zombie, c'est-à-dire en être non-pensant, c'est simplement l'autre, celui qui va vous voler votre téléphone portable, tout ce qui fait les éléments qui font un individu. Donc aujourd'hui, voilà. Donc l'écologie, elle a une portion relativement congrue dans l'imaginaire post-apocalyptique.
Juste un petit bout, là, parce que c'est une des choses intéressantes avec ton bouquin, c'est que tu es dans un contexte. Une des choses intéressantes, tu es dans un contexte post-apocalyptique, effectivement, 70 ans à partir de maintenant, à peu près. Mais tu reviens en début de chapitre, à peu près un chapitre sur deux, avec des fragments de journaux télévisés, de romans, d'articles, etc., sur ce qui s'est passé avant et comment on est arrivé là. Et là, tu nous as sorti un extrait d'un roman de Pierre Janval, Le Crash de Babylone. Publié en 2032, donc. En son temps, l'American Way of Life ne fut que le détonateur d'une réaction en chaîne qui n'attendait qu'une étincelle. Nous chevauchions le pétard, comme ces gosses pouilleux à Califorchon sur une bombe non explosée. On est tout à fait dans ce cadre-là. Ceci dit, une fois qu'on est parti et que ça a pété, comment ça se gère visuellement pour le cinéma, par exemple? On passe quasiment systématiquement par la violence. Vous pensez que c'est une réaction obligatoire de l'homme à une situation de crise, la violence?
C'est vendeur.
C'est vendeur, oui, mais encore. Est-ce qu'il y a...
C'est la thématique, thématique centrale du post-apo.
Du post-apo.
Et puis c'est facile au niveau scénario.
C'est facile au niveau scénario. C'est aussi réducteur que ça ou,
la violence.
Oui. L'exploitation de la violence.
L'exploitation de la violence dans le cinéma ou dans les bouquins, c'est une facilité. C'est une facilité. Quand je mets une baston dans un de mes bouquins, ça fait un truc qui retourne, ça me permet de me débarrasser de quelques enculés, et puis voilà quoi. Mais la violence, c'est jamais une marque de scénario qui va bien quoi. Là, la violence ne sert qu'à faire du décor. Dans les films américains, pourquoi il y a de la violence? T'as un film, je me rappelle d'un film qui n'était pas un film de SF, c'était un film de braquage qui s'appelait Heat.
Oui.
Et les mecs, ils tirent sans arrêt dans ce film. Je me rappelle d'une scène de fusillade dans la rue. Les mecs, ils ont des fusils automatiques, des fusils de guerre automatiques. Et ils tirent, mais chargeur sur chargeur, sur chargeur, sur chargeur. Et ça sert à que dalle. Ça fait des trous dans les bagnoles, ça explose des pare-brises. il y a un flic qui est blessé. Genre, ils ont tiré 12 millions de cartouches, il y a un flic blessé, un type qui prend une balle. Bon, c'est, au niveau du résultat, c'est quand même extrêmement zéro. Mais ça fait des belles scènes, ça fait des scènes de ralenti, ça fait ça court, ça met de la pression, ça met tout ça, mais ça raconte rien en fait. La pression, il y a un beau film qui raconte la pression pour parler de violence. Il y a Un après-midi de chien avec Al Pacino, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est aussi un film de braquage, où il est coincé dans cette banque avec des flics tout le tour. Et c'est psychologique. Il y a pas, je ne sais même pas s'il y a un seul coup de feu dans ce film-là, mais peut-être qu'il y en a parce que c'est un film américain, mais c'est vachement plus intéressant de raconter l'histoire comme ça. Une histoire post-apo où il n'y aurait pas de violence, où les gens essayent de survivre par eux-mêmes et tout ça, je ne sais pas si ça arriverait à être passionnant pour le grand public tel qu'on l'appelle et qu'on le définit à l'heure actuelle, et qu'on a besoin de créer une histoire où on puisse faire une coupure toutes les 22 minutes pour avoir 6 minutes de pub. Voilà, parce qu'il faut que ça soit vendeur. Si vous avez une histoire très pastorale, vous coupez, hop, avec 6 minutes de pub, et quand vous remettez la série, il n'y a plus personne qui la regarde, parce que tout le monde a zappé pendant la pub. Voilà. Walking Dead, personne zappe pendant la pub parce qu'on sait que ça va se massacrer derrière. Quand il y a la coupure pub dans Walking Dead, ils sont là. Ah. Regardez comment ça se passe, le truc. Vous verrez, quand il y a la coupure pub, c'est là qu'elle se produit. Et donc, vous revenez après. Et donc, vous regardez la pub. Parce qu'elle est juste là pour ça. C'est ça qui finance le truc. Hein. C'est juste ça. Hein. Donc, si vous racontez une vraie histoire sans violence, c'est vendeur dans un livre. Parce qu'il n'y a pas de coupure pub dans un livre, ça s'utilise différemment d'un film, un livre. C'est un livre, on peut le prendre et ça peut raconter, et pendant 300 pages, sa mère, elle est tombée dans le jardin avec beaucoup de style. Voilà. Bon, c'est super sympa, voilà. Mais moi, je l'ai lu, ce bouquin, et je l'ai trouvé vachement bien. Je ne sais même plus comment il s'appelle, j'arrête pas de le rendre justice.
Veillard Gans.
C'est Veillard Gans ? D'accord.
Bon, il me semble.
Voilà, c'est lui. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça vachement bien, ce bouquin-là. J'ai trouvé qu'il avait un style de ouf, voilà. Il disait rien avec un style de ouf. Maintenant, si on veut raconter du post-apo, on peut le faire avec du style, on peut le faire avec tout ça, mais au cinéma, on est obligé de le faire avec des flingues quand même un peu. Parce que, ou alors sinon, ils font un gros truc de promo avant pour dire, et puis mettre dedans des acteurs d'une sobriété, genre, je sais pas, Gérard Depardieu, par exemple, voilà. Pour avoir une accroche, pour avoir quelque chose, quoi. Parce que sinon, ça, vous prenez trois inconnus dans un film de post-apo. Si vous avez un bon plan promo, que vous avez de la chance et qu'il y a du talent, et que vous avez une vraie histoire, qu'il y a un truc et que ça ne vous a pas coûté des fortunes parce que ça va faire des risques, eh ben vous arriverez peut-être à quelque chose. Mais en général, vous faites un film de post-apo, vous faites World War Z avec, comment il s'appelle,
Brad Pitt,
voilà. Vous faites World War Z avec Brad Pitt, c'est-à-dire qu'il y a un scénario qui tient à peu près sur la moitié d'un timbre-poste. Et puis c'est tout, quoi. Des mitrailleuses et des hélicoptères, des zombies. Voilà, il n'y a rien dedans, quoi. Alors, 28 jours, il y a des trucs dedans. Comment ça s'appelle l'autre aussi, tu sais, le Fils de l'Homme.
Il y a Fils de l'Homme qui avait des trucs. Qui était adapté de Dorothy James.
Ouais, qui est vachement bien aussi. Il y a plein de films qui sont vachement bien, qui ne sont pas basés sur la violence. Il y en
même
a forcément dedans.
The Postman.
The Postman, ouais, avec
Kevin Costner,
il y a Waterworld. Voilà. Il y a peu de violence dedans, il y en a
même
un
des
peu,
confrontations
mais,
de groupe,
mais ouais, mais elle est comique là, parce que franchement, les mecs qui sont sur le pétrolier, c'est quand même assez risible.
Raphaël, tu veux réagir, rames, non?
C'est assez marrant.
Et je dirais juste que je reprendrai la phrase de Hobbes, c'est l'homme est un loup pour l'homme,
oui.
Et que à travers toute la fiction post-apo, la question de la violence se pose automatiquement. Il y a que le concept du post-apo, ce que je disais tout à l'heure, c'est faire table rase.
Moi, je parlais du cinéma. Voilà.
Mais même au niveau du cinéma, la question, c'est que voilà, tout s'effondre, il n'y a plus de société, donc il n'y a plus de lien social, il n'y a plus d'organisation, tout est à reconstruire. Et que voilà, la fiction post-apo, sous toutes ses formes, traite depuis très longtemps la question, donc, ce que je disais tout à l'heure, des derniers civilisés et des nouveaux barbares. Et que ce que peut pointer la littérature, mais aussi le cinéma, c'est que systématiquement, là, on est en groupe, demain on se retrouve dans une situation post-apocalyptique, il va y avoir au sein de ce groupe-là une constitution de sous-groupes qui vont s'opposer, parce qu'il n'y aura pas assez à manger, parce qu'il n'y aura pas assez d'eau, il n'y aura pas assez de ceci.
Il y a ceux qui voudront obéir et ceux qui mourront.
Voilà, il y aura toujours un individu pour essayer de prendre le pouvoir, Donc c'est l'idée de ce qu'on appelle le chef. Et je vous conseille le film Les Temps Futurs, le film de 1936 d'après H.G. Wells, qui justement il y a une dimension post-apocalyptique, puisqu'il y a une guerre qui dévaste la civilisation. On régresse une forme de néo-féodalisme et il y a la figure du chef.
On n'a pas parlé d'un truc, et donc je vois dans ton excellent ouvrage écrit, c'est la bande dessinée.
Ah, mais il y a plein de...
Et tu en parles très bien, notamment Jérémia, je ne sais pas si vous avez...
Ah, Jérémia,
voilà.
Jérémia, c'est Herman.
Oui, il faut s'arrêter au 12e album. Après,
oui, c'est Herman. Derrière deux personnages, il était question d'une société, et puis après, c'est parti.
Oui, oui, et puis maintenant, ça devient n'importe quoi.
Et du coup, la violence, c'est quelque chose qui est forcément, on est obligé de le traiter dans la fiction post-apocalyptique, puisque de toute façon, il y aura des groupes qui voudront être des groupes parasites, c'est-à-dire parce qu'il y aura toujours des pillards, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vouloir exploiter d'autres gens. Mm-hmm. Et que ce qui est intéressant dans ce type de fiction, c'est de montrer ce que l'homme peut être, la capacité qu'il a à être destructeur ou à concevoir un projet pour reconstruire. Mm-hmm. Et que toute la fiction post-apocalyptique, elle traite de ça. Donc effectivement, la violence... c'est quelque chose qui est incontournable dans ce type de fiction, parce que ça traite de toutes ces questions-là. Voilà.
Des conflits de groupe et tout
Des conflits de groupe. Et que à travers tous les types de fiction. Alors, effectivement, tu as raison, la télévision, la coupure de pub, tout ça, n'empêche qu'une série comme Walking Dead ne cesse de traiter de cette question de comment des groupes humains réagissent par rapport à une situation extrême. Mmh. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le début de la saison 5.
Non,
il y a les deux premiers épisodes qui sont sortis.
Alors tu dis rien.
Alors, là dehors, et enfin, dans le premier, dans Terminus, là où il y a donc les cannibales, il y a une réflexion. Si tu as vu la fin de la saison 4, donc tu sais qu'ils sont cannibales.
Mais je les ai vus enfermés dans le wagon, là, c'est tout.
Oui, mais tu sais qu'ils sont cannibales.
Non, je sais pas.
Et ben, ils ne le savaient pas, mais maintenant,
à la fin de l'épisode de saison 4, le dernier, tu as un plan où tu vois un abattoir avec des cadavres humains.
Oui, j'ai vu.
Et puis bon, si on connaît la BD, on sait. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'épisode 5, saison 5, épisode 1, on justifie pourquoi les personnages sont devenus cannibales. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un acte gratuit.
J'écoute pas.
Il y a tout un processus où il y a deux scènes qui permettent de comprendre comment ils sont arrivés à cette situation-là. Donc c'est ça qui est intéressant dans la fiction. C'est bon. La fiction post-apo, c'est de, on n'est pas non plus dans le côté grand guignol où il y a un méchant caricatural. Aujourd'hui, les œuvres qui sont produites là, même les plus commerciales, je citerai une série qui s'appelle The Last Ship, produite par Michael Bay, qui vaut vraiment des points en termes de nationalisme américain. Mais dans le dernier épisode, il y a des choses hyper intéressantes sur le rapport à l'État, sur comment un groupe va prendre le pouvoir par rapport à un autre parce qu'ils ont des objectifs, parce qu'ils sont eugénistes, parce qu'ils sont prêts à continuer à massacrer les gens, parce qu'il y a la part du bien, parce qu'il y a la part du pouvoir, et de toutes ces thématiques. Donc la violence, malheureusement, demain le monde s'effondre, ça sera un monde de violence. C'est obligé, parce qu'on n'aura pas assez à manger, on n'aura pas assez à boire, et qu'il y aura automatiquement des conflits entre nous.
Vous êtes d'accord en fait?
Pose ta question. Oui, oui.
En fait, c'est...
Parce que dans Bobo, on aurait dit que la violence, effectivement, l'homme n'aurait pas forcément. C'était surtout du cinéma.
Non, je parlais.
Pour plaire au grand public.
Voilà, c'est ça.
Et puis en fait, l'homme n'aurait pas forcément recours à la violence dans ce genre de situation.
Si, je pense que si.
Voilà, c'est ça.
Oui, non, je pense que si.
Voilà,
je pense que si.
Je dirais même ce qui est intéressant actuellement dans les séries, notamment dans Walking Dead, un des épisodes de la saison 4, dans une autre série qui s'appelle Les Sangs. Qui est très intéressante, c'est aussi comment les scénaristes commencent à intégrer des enfants dans cette problématique-là. Mmh. Et comment on amène à des enfants à réagir à des situations extrêmes. Et je ne pense pas que ce soit gratuit.
Non.
Qu'il y a un vrai travail de la part des scénaristes d'amener à confronter aussi...
Ouais.
Alors, après, il y a tout le phénomène de la littérature young adult, avec Hunger Games, Labyrinthe, Divergence...
Ouais.
Qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les ados qui lisent du post-apo.
Mais dans Walking Dead, je pense qu'ils ont pris un gros risque à un moment donné où le gamin, il s'appelle Carl, je crois,
mais alors,
où le gamin tue sa mère.
Ouais, mais je pense pas à cet épisode.
Ça, c'est chaud.
Je pense à l'épisode des deux sœurs. Où il y a la, c'est dans l'épisode saison 4, dans la deuxième partie.
Dans la ferme, là.
Oui, dans le, bah, quand il y a. J'ai perdu les noms des personnages. Non, c'est saison 4, quand ils sont sortis de la prison. Les groupes, le groupe est éparpillé en petits groupes.
Oui.
Et à un moment, il y a les deux sœurs de gamines. Il y en a une qui adore les zombies et qui va jusqu'à tuer sa petite sœur pour montrer aux adultes que c'est super cool d'être zombie.
Ah putain, oui.
Et il y a toute une réflexion sur le fait que la gamine ne peut pas vivre en société et qu'en fait, ils finissent par la battre.
Ouais.
Donc c'est cette. Voilà, c'est ça. Il y a une réflexion là-dessus, sur la position là, des enfants.
Bon, en même temps, c'était une chipie.
Mais bon, alors en tout cas, on revient sur voilà, la loi du plus fort, sur toutes ces thématiques, sur toute la philosophie de Hobbes, en fait, qui ne cesse de hanter ce type de fiction, et comment on peut reconstruire ou non des sociétés. Voilà. Et même dans Nausicaa, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a forcément un conflit entre des entités, donc la politique, entre des gens, mais on peut aussi développer des communautés pastorales. Je vous conseille, alors la BD est vraiment très très difficile à trouver, mais Simon du Fleuve, oui. 5 volumes des années 70 de Auclair.
Trouve en brocante.
Très très difficile.
Je les ai, moi.
Ah ouais, mais bon, je les ai d'époque. Mmh. Et là, c'est une BD intéressante parce qu'elle est vraiment dans l'état d'esprit des années 70, donc Retour à la Terre. Mais que le deuxième album, Les Esclaves, montre comment en fait les restes de l'État, donc en fait sous des formes de milices militaires, vont faire des razzias au sein des villages de pasteurs pour les amener à leur faire des esclaves et les faire travailler dans une usine. Et voilà. Et donc, d'un côté, on a des morceaux d'albums de cette série qui vont nous aborder sur d'autres formes de, voilà, de groupes pastoraux, d'agriculteurs, qui essaient de reconstruire quelque chose. Et comment, en fait, il y a toujours, de toute façon, voilà, un chef, une autorité passée, des débris d'un pouvoir militaire ou politique, qui aura toujours tendance à voilà, esclavagiser. Ou je vous conseillerais la série Conan, fils du futur de Miyazaki, qui est disponible, que je conseille vraiment, parce qu'elle est sur toutes ces thématiques-là. C'est-à-dire que l'opposition entre deux îles, là c'est une submersion des continents, et on a une île qui s'appelle Industria, qui essaie de reconstruire la civilisation du passé, qui a été dévastée, et qu'en fait le système des sages, en fait c'est des scientifiques. Ils ont un système plus ou moins démocratique, sauf qu'ils pratiquent l'esclavagisme
plus
pour faire travailler voilà, plus ou moins démocratique, parce qu'ils se pensent démocratiques.
Avec quelques aménagements.
Voilà. Ouais. Mais ils laissent le pouvoir policier à un individu qui est peu recommandable, et il y a donc des esclaves qui travaillent pour reconstruire la civilisation. Et à l'inverse, Edenia, qui est une petite île, où là, les individus qui ont survécu ont reconstruit un village basé sur l'agriculture, qui négocie avec un autre village qui sont des pasteurs, et qu'ils essaient de reconstruire quelque chose qui est de l'ordre de l'utopie. Parce que dans la fiction post-apocalyptique, qu'elle soit écologique ou non, dans n'importe quel type de situation, ce qui est vraiment intéressant dans ce type de fiction, c'est qu'on est sur le rapport de l'utopie et de la dystopie. Mm-hmm. Dystopie étant l'anti-utopie. Et qu'en permanence, et que l'idée qui est géniale pour moi dans le post-apo, c'est en faisant table rase, on peut, qu'on soit un auteur de bande dessinée, de littérature ou de cinéma, proposer des modèles qui sont dystopiques ou utopiques. Mmh.
Voilà. Tout à fait. Ben c'est bien, c'est bien pour comme phrase de conclusion, ça.
C'est vachement bien. Hein.
Vous avez sûrement des questions.
Ben non, je
sais qu'on on a à peine effleuré le sujet, parce qu'il est vraiment très très vaste. Oui.
La dystopie peut être représentée au travers des personnages aussi. Notamment cité Jérémia.
Ouais.
On voit ces deux personnages qui sont pratiquement antagonistes. L'un qui est très utopique, qui rêve que tout va s'arranger, et l'autre qui est vraiment dans les faits, dans la réalité sordide
de
ce monde un peu Mad Max.
Et souvent, si tu veux, dans une présentation de société, comme dans Conan, fils du futur, les personnages reflètent aussi, si tu veux, les chefs de la communauté des Nénia sont des gens utopistes, donc extrêmement humanistes. Qui, voilà, et d'ailleurs, il y a toute une transmission entre les adultes et les enfants dans la série, parce que les adultes sont aussi responsables de la guerre. Donc il y a tout un rapport assez intéressant avec les enfants, surtout que la plupart des enfants sont orphelins, puisqu'ils ont perdu leurs parents pendant la guerre. Donc il y a toute une réflexion autour de ça. Et puis à côté de ça, dans Industria, tu vois le siège des savants, qui sont alors dans leur rêve. Ils sont tout le temps dans un bureau, et ils imaginent des plans pour planifier la reconstruction de ceci. Ils sont complètement à des années-lumière de la réalité.
C'est pas de la science-fiction.
Voilà, comme maintenant. Et ils laissent le chef de la police mener ses bases, voilà, ses bases de zone pour amener et peu leur importe qu'il y a des gens soient esclaves.
Ça n'a absolument aucune connexion avec l'époque qu'on connaît, évidemment.
Du tout.
Non.
Oui.
Allez, posez une question.
Allez.
Posez une question.
C'est récurrent chez lui en ce moment. Posez une question.
Ouais. Question.
D'accord.
Comme brain.
Bah, c'est... bah oui.
Je reviens à la violence. Quelle réponse possible autre que la violence ?
La violence. Non, mais il n'y a pas. Non, la réponse, elle est un petit peu dans ce qu'il disait. D'un côté, tu as une civilisation machin, de l'autre côté, tu as une utopie, et qui s'appelle Utopia d'ailleurs. Et dans cette utopie, les gens, ils sont pas violents, ils sont machin, il y a des pasteurs, des pasteurs au sens.
Je nuancerais. Ce qui est intéressant dans la fiction, c'est que tu as un panel de personnages qui, par exemple, défendent la civilisation, et tu as toujours souvent quelqu'un qui est prêt à recourir à la violence, entre guillemets, pour se défendre. Un qui n'est pas contre, et c'est ça qui est intéressant dans ce type de fiction, c'est que quand elle est bien travaillée au niveau de ses personnages, au niveau de son fond de réflexion, tu as un panel de personnages qui est relativement riche et qui permet de voir les orientations en fait possibles. Je reviens sur la série Les 100.
Tu n'as pas de violence dans ton côté utopien.
Non, mais si ça peut exister.
Il n'y est pas dedans.
Pas dans Edenia, mais Edenia, à un moment, subit l'attaque d'un Mustinia, et il y a toute la réflexion sur comment résister à l'occupant. Et donc, du coup, dans la série, il y en a certains qui optent pour la résistance, d'autres qui acceptent l'occupation. Comme dans la vie. Donc, il y a ces panels. Ou la série Les 100, la série avec les ados. C'est intéressant de voir comment les différents leaders du groupe des ados optent pour différentes solutions.
Il n'y a pas de réponse miracle. Tu sais, Al Capone, un grand humaniste bien connu, disait on obtient beaucoup plus avec un sourire et un revolver chargé qu'avec un sourire tout seul. Voilà. Et de toute façon, de la violence, il y en aura, il y en avait avant, il y en aura après, et d'autant plus si on arrive dans des situations où il n'y a plus personne qui soit garant de la sécurité de personne et que ta seule garante de sécurité, c'est le revolver que tu as dans ta poche. Voilà. Et ceux qui auront des revolvers
seront plus égaux que les autres.
Voilà, seront plus égaux que les autres, exactement. Voilà.
Ou tu peux lire dans la fiction zombie, par certains romans, comment certains groupes essaient de reconstruire des camps de réfugiés. Donc forcément, il y a la question de la sécurité, puisqu'il faut se battre contre les zombies, contre les bandes de pilleurs, mais à l'intérieur du camp, on reconstruit du lien social. Donc toute la thématique, c'est comment reconstruire du lien social dans une situation extrême et de pouvoir rebâtir. Il y a un roman, c'est Zombie Business, de Peterson, qui est très bien, parce qu'en fait, dans ce roman, les bibliothèques deviennent des lieux sacralisés pour les survivants, parce que c'est là où on peut retrouver les livres sur l'agriculture, sur toutes les techniques qui permettent en fait aux survivants de trouver des astuces. Et en fait, les lieux sont protégés. Les gens viennent pour consulter les livres. On n'a pas le droit de voler un livre. C'est-à-dire que c'est pour le bien de la collectivité. Et que même tous les groupes de survivants se mettent d'accord pour ne pas détruire ce type d'espace, parce que c'est grâce à ça qu'ils peuvent arriver à reconstruire. Puisque dans ce monde-là, l'électronique ne marche plus, qu'on n'a plus d'ordinateur, on n'a plus rien, on n'a plus d'Internet. Donc toute cette science-là, toutes ces informations sur le numérique qui est extrêmement fragile, ça ne vaut pas un bon vieux livre.
Exactement, un bon vieux livre. Regardez ces deux extraordinaires ouvrages.
C'était quelque chose qui était effleuré dans le deuxième matin du monde.
Et puis toute la question de l'homme manuel. Un des trucs qui, moi, j'apprécie, dans ce que j'ai lu sur toute la littérature zombie post-apo de ces dernières années, c'est l'idée de la revanche du col bleu par rapport au col blanc.
Ouais.
Parce que dans ce type de société, le col blanc est incapable de survivre. Il devient même un boulet par rapport au groupe. Et c'est le col bleu, c'est-à-dire l'homme manuel, beaucoup plus de capacité à survivre. Parce qu'il
se...
Peut-être. Mais pas le bolchevisme, on parlait alors d'autres aspects. Mais l'idée, que c'est l'homme manuel, celui qui sait servir des mains, celui qui sait bricoler, celui qui sait se débrouiller, il a plus de chances de survivre que le col blanc qui est habitué à utiliser ses...
que le col blanc vit dans la civilisation qu'on a maintenant. Si elle s'écroule, il n'a plus lieu d'être.
Oui, il y a un côté bassonnade aussi, d'ailleurs,
oui, dans
qui est très séduisant.
Il y a aussi un revirement, des écoles blancs qui peuvent se retrouver dans la nature, comme par exemple ce film là, de Burn Woman, où ils se retrouvent dans les Appalaches, comme ça.
Oui, mais la civilisation, elle existe encore dans ce film-là.
Délivrance.
Délivrance,
oui, bien sûr.
Là, c'est juste un sorte de voyage initiatique d'un personnage qui va se redécouvrir ou se découvrir, si tu veux. Mais le cadre autour n'est pas un cadre extrêmement menaçant. Il subit une épreuve. Il subit une épreuve, mais à la fin, en bout de course, il revient dans la civilisation. Ce qui est intéressant dans le post-apo, la civilisation n'existe plus, elle est à reconstruire.
Ils ne reviennent pas tous.
C'est la civilisation, elle ne revient pas. C'est ça. Une fois que tu es sorti de la civilisation, est-ce que tu peux retourner?
Souvent, dans ce type de roman ou dans ce type de film, le col blanc, d'ailleurs, devient le chef. Devient le chef d'un groupe.
Ouais, c'était initiatique, ça.
Voilà, qui est prêt à massacrer les autres. Souvent, ça fonctionne.
On le voit aussi dans, bah justement dans Révolution.
Non, bah, dans Révolution, par exemple, effectivement.
Oui.
La question va peut-être me sembler un peu évidente, parce que j'essaie
de... C'est pas grave, j'ai enfoncé plein de portes ouvertes tout à l'heure. Vas-y.
Est-ce que post-apocalyptique, ça implique forcément un déclin quantitatif du nombre d'humains sur Terre, en fait?
Ouais.
Ouais, généralement.
Parce que, en fait, quand je pense, vous allez peut-être me dire que c'est pas du post-apocalyptique, mais quand je pense à Matrix, où en fait, ils produisent des humains.
Bah, c'est du post-apo.
C'est du post-apo.
Ouais. Du coup, pourtant, le nombre d'humains, ils...
Oui, mais si tu veux, le monde a été détruit.
Ouais.
La machine a pris le pouvoir. Donc, elle peut produire des humains comme du bétail. Peu importe. C'est ouais, effectivement, c'est, je vois la question, mais c'est pas le nombre. Peu importe le nombre, le post-apo, c'est quand la civilisation telle qu'on la connaît est renversée par une invasion extraterrestre, par un séisme, par une épidémie, par tout ce que tu veux. Tout d'un coup, c'est le cadre tel qu'on connaît là, a disparu au profit d'un autre système.
C'est juste un changement.
Voilà, et c'est et un changement, une rupture, si tu veux.
Un autre pour lequel je pensais, c'est quand je vois Judge Dredd. Bon, il y a quand même eu des humains qui ont...
Et c'est du post-apo.
C'est,
hein.
Du post-apo,
c'est du post-apo, Judge Dredd.
D'après ce que j'ai compris, donc j'ai pas réussi à choper des idées de Judge Dredd.
Demolition Man aussi.
Demolition Man est brillant, j'adore.
Ils sont casés, donc partis dans des méga-cités. Et pourtant, en fait, il y a une surpopulation d'humains par rapport à ce que...
Oui, mais parce que c'est après, c'est revenu après, la civilisation est revenue.
Et qu'il n'y a plus que deux grandes cités aux
États-Unis.
Le reste est un désert.
Il faut absolument lire la BD d'origine.
Mais, non, mais par contre, si c'est intéressant, c'est que la science n'est pas exclue du post-apo.
D'accord.
Énormément de séries animées japonaises traitent, par exemple, ou même d'autres films, hein, d'autres œuvres non japonaises. Par exemple, c'est la station spatiale qui permet d'être un refuge pour l'humanité. Et la Terre est dévastée.
Elysium,
le film, ou le roman La schismatrice de Sterling des années 80, où l'humanité a colonisé le système solaire et abandonné la Terre parce qu'elle a été dévastée. Et elle n'a plus le droit de revenir sur la Terre dans le roman. Donc la technologie n'est pas exclue du post-apo. D'ailleurs, tu peux même avoir un panel, là encore, de cas différents, où dans une société post-apocalyptique, le chef, donc l'autorité dystopique, le pouvoir fort, utilise les restes de la technologie pour asseoir son autorité sur le groupe.
Comme dans Révolution,
par exemple. Voilà. Donc oui, la technologie n'est pas exclue du post-apo, mais elle offre un nouveau panel, si tu veux, de
situations. Il y a plusieurs courants. Dans le post-apo, c'est comme dans la science-fiction ou dans la littérature, il y a plusieurs courants. Il y a les tenants de tel post-apo, il y a les tenants de tel autre post-apo, il y a ceux qui sont technologiques, il y a ceux qui sont politiques, il y a ceux qui sont épidémiques, il y a ceux qui sont...
C'est un des genres les plus riches qui puissent exister.
Et qui titille plus aux instants humains, en fait, que le reste, parce que ça nous ramène aux peurs qu'on a, ça nous ramène... Les courants, si on analysait le post-apo depuis qu'il est écrit, on voit dans les années 70, ils écrivaient par rapport à une certaine chose, maintenant on écrit par rapport à une autre chose. Moi, j'écris par rapport au fait que c'est toute la politique, l'échec de la politique telle qu'on la connaît maintenant, qui fait que les civilisations s'écroulent parce que la politique ne peut rien, en fait. On le voit bien, ils peuvent rien faire. Donc ça s'étouffe tout seul et les gens essayent de survivre là-dedans. Quoi, voilà. Donc c'est pas, il y a plusieurs trucs. Il y a eu ceux qui disaient ça va être la bombe atomique, ça va être le machin, ça va être ceci, cela. La bombe atomique, elle a pété deux fois, là on a bien voulu la balancer. Voilà, c'est tout. Maintenant ils en ont pris une autre, c'est eux qui l'ont fabriquée eux-mêmes. Donc, ça, hop, on est cool sur ce coup-là. Voilà. Mais voilà, donc c'est le post-apo, c'est Fukushima, ils l'ont vécu. Fukushima, ils le vivent. Quand il y a un super tremblement de terre en Turquie, ils le vivent. Quand il y a un tsunami en Thaïlande, ils le vivent. C'est ça, le post-apo. Il est quotidien maintenant. Nous, on est protégés ici encore. On est protégé parce qu'on a les moyens technologiques de survivre, même aux intempéries extrêmes qu'on a nous. D'accord ? On a peut-être quelques petites inondations de droite et de gauche qui vont tuer une vingtaine de personnes en Vendée. C'est déplorable, c'est désolé, pardon, les familles, tout ça. Mais c'est 20 personnes. On a un tsunami en Thaïlande, c'est je ne sais pas combien de milliers de personnes. On a une épidémie, aux Indes, c'est 1 million de personnes. On a, voilà, des trucs dont on ne parle même pas. Il y a des machins qui arrivent en Chine, je ne sais pas où. Même les Chinois ne savent pas, quoi. Donc ils sont 3 milliards. Puis, ben, 200 millions de moins, ça ne fait pas grand-chose, quoi. Donc, c'est pas, voilà, toutes ces choses-là sont relatives. Et le post-apo, il est partout à l'heure actuelle. Et il a tendance, malheureusement, à se généraliser un petit peu quand même maintenant. Il n'y a pas que le phénomène de l'information, il n'y a pas que le fait qu'on ne sait plus ce qui est arrivé un truc dans les Philippines. Maintenant, on sait qu'il est arrivé un truc dans les Philippines. Parce qu'on a Internet, parce que machin, parce qu'il y avait des reporters, parce qu'il y a des téléphones portables, et que n'importe qui avec son téléphone portable prend la photo de ce gamin en train de se noyer, et que demain, elle fait le tour du monde. Demain, dans les 10 secondes, elle fait le tour du monde. Voilà. Et que les rédactions se l'arrachent et machin truc. Bon. Voilà. Maintenant, l'information va vachement vite. Mais n'empêche que la fréquence. La fréquence des événements climatiques extrêmes s'augmente. On ne peut pas nier ça. Voilà. Et en plus de ça, on y ajoute des guerres qui sont provoquées ou indues à ça, qui sont ou dues parfois à ça, ou des produits dérivés, on va dire, entre guillemets, d'événements climatiques, comme les exodes massifs qui provoquent des guerres dans des parties d'Afrique, des famines qui sont liées à ça, qui vont donc provoquer des guerres, qui vont provoquer des épidémies, etc. Donc tout ça, tous ces trucs-là sont liés. Et ça, c'est lié à quoi ? À une incurie politique, à mon sens, à la base. Une incurie politique mondiale que tout le monde n'est pas capable de se mettre ensemble. Ils se mettent autour d'une table, ils discutent de quoi ? Ils vont à la gauche, ils boivent des cocktails, et puis c'est tout. Et puis on se partage le monde, et voilà.
Ouais, je pensais juste à deux choses, deux petits détails.
Tu ne veux pas penser juste à une, parce que là on est court.
Mais deux choses. Par rapport à la question de la violence, c'est aussi le survivalisme. Ouais. Et je vous conseille de vous renseigner sur tous les courants survivalistes américains. Et notamment comment ça a noyauté la fiction zombie. Et donc il y a vraiment une véritable obsession sur voilà, la notion du Freeman, du survivalisme. Donc ça c'est aussi voilà, le reflet de son époque.
Pourquoi les flingues aux États-Unis, ça vient de là aussi. Hein.
Et le dernier truc, c'est le post-apo, c'est aussi une manière, donc c'est toujours cette histoire de miroir des peurs du temps qui passe. Et au Japon, à Fukushima, donc en fait il y a une sorte de blackout au niveau de l'information qui se passe autour de cette centrale dans la presse, on va dire, japonaise. Et par contre, c'est la fiction qui relaie la thématique, et notamment il y a une série qui s'appelle Copelion, qui traite d'un groupe de jeunes filles, c'est une série animée en 13 épisodes, où en fait c'est des jeunes filles qui retournent dans Tokyo, qui a été dévastée par un accident nucléaire. Et la série, elle est de 2013. Mm-hmm. Donc c'est juste voilà, pour dire aussi que la fiction post-apocalyptique...
C'est une série japonaise ou américaine ?
Japonaise, c'est une série d'animation. Depuis qu'elle existe, c'est toujours cette histoire de miroir.
Ouais.
Et donc aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'elle nous permet de voir nos peurs, mais que de relire quelque chose des années 50 nous permet de comprendre ce qu'était un petit peu les années 50. Voilà.
Je vais
aujourd'hui, elle est toujours sur le fil, si tu veux,
de
l'actualité, et que c'est intéressant. Enfin, voilà.
Je complète ce que tu viens de dire brièvement, et je pense que c'est quelque chose à savoir effectivement. À l'heure actuelle, au Japon, on peut prendre jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour avoir donné des précisions à la presse concernant la zone de Fukushima et le taux de radiation, y compris sur Tokyo. Voilà. Ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison, c'est 5 ans pour le journaliste qui aura cherché de l'info. Voilà, je trouve que c'est énorme comme à savoir.
Pronostic. Grâce à Ebola, je pense qu'on va avoir beaucoup de fiction épidémique dans les années à venir.
Et j'allais te demander à quand un film sur Fukushima, voilà. Voilà. Mais sauf qu'on peut pas.
The Last Ship, c'est parle d'une épidémie mondiale. Donc on est vraiment dans le truc. Mais là, avec ce type de phénomène, comment les infos, voilà, l'information est relayée, comment il y a une véritable psychose autour de cette maladie, c'est évident que les scénaristes, d'une manière ou d'une autre, vont se saisir de ça. On devrait avoir encore pas mal de fiction type épidémique dans les.
Il y avait eu virus et un tas de trucs.
Merci, messieurs.
Eh bien, merci d'être venus.